Bonjour et bienvenue dans le deuxième épisode du podcast « Maximisez votre plein potentiel » où vous allez découvrir 10 résumés professionnels complets des livres les plus incontournables de tous les temps. Dans cet épisode, nous faisons le résumé du livre « Père riche, père pauvre » de Robert Kiyosaki. Ce livre raconte l'histoire d'un garçon qui a deux pères. Un père riche, l'autre pauvre. Ce livre est là pour vous aider à développer l'état d'esprit et les connaissances financières dont vous avez besoin pour construire une vie de richesse et de liberté. Robert Kiyosaki, l'auteur de Père riche, père pauvre, a eu deux pères très influents dans sa vie. Père pauvre était le père biologique de Kiyosaki, un homme très intelligent et très bien éduqué. Père pauvre croyait qu'il fallait étudier dur et obtenir de bonnes notes, puis trouver un emploi bien rémunéré. Pourtant, malgré ses attributs apparemment positifs, Père pauvre n'a pas réussi à s'en sortir financièrement. Père riche était le père du meilleur ami de Kiyosaki. Il avait une éthique de travail similaire à celle du vrai père de Kiyosaki, mais avec une différence. Père riche croyait en l'éducation financière, à l'apprentissage du fonctionnement de l'argent et à la compréhension de la manière de faire travailler l'argent pour soi. Bien qu'il ait abandonné l'école en 8e année, Père riche est devenu millionnaire en mettant le pouvoir de l'argent à son service. Le livre est écrit du point de vue de Kiyosaki, qui explique comment Père pauvre s'y est pris pour gagner de l'argent et quelles sont les erreurs commises par Père pauvre. Les 6 premiers chapitres du livre représentent environ les 2/3 du livre et traitent les 6 leçons que Kiyosaki a tirées de son père riche. Laissons-nous donc parcourir les 8 chapitres du livre et voir ce que vous pouvez apprendre de l'histoire de Kiyosaki. Chapitre 1. Les riches ne travaillent pas pour l'argent. Souvent, les gens comprennent mal le titre de ce chapitre et croient à tort qu'il signifie que les riches ne travaillent pas. En fait, c'est tout le contraire qui est vrai. Au lieu de lire le titre du chapitre comme « Les riches ne travaillent pas pour l'argent », Kiyosaki veut dire que « Les riches ne travaillent pas pour l'argent ». Notez qu'en mettant l'accent sur le dernier mot « argent », ce chapitre prend une toute autre signification. La vérité est que la majorité des riches travaillent très dur, mais ils s'y prennent différemment de la plupart des gens. Les riches, et ceux qui veulent le devenir, travaillent et apprennent chaque jour à faire travailler l'argent pour eux. Comme le dit Père riche, les pauvres et la classe moyenne travaillent pour l'argent. Les riches font travailler l'argent pour eux. Kiyosaki fait également remarquer que le fait d'avoir un emploi régulier n'est qu'une solution à court terme aux problèmes ou défis à long terme de la création de richesses et de la liberté financière. C'est la peur qui maintient la plupart des gens au travail, la peur de ne pas payer leurs factures, la peur d'être licencié, la peur de ne pas avoir assez d'argent et la peur de repartir à zéro. C'est le prix à payer pour étudier, afin d'apprendre une profession ou un métier, puis travailler pour gagner de l'argent. La plupart des gens deviennent esclaves de l'argent et se mettent ensuite en colère contre leur patron. Le deuxième chapitre de Père riche, père pauvre explique la différence entre un actif et un passif. Ce chapitre insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas de savoir combien d'argent vous gagnez, mais combien d'argent vous conservez. Il met donc le point sur pourquoi apprendre la culture financière. Un actif est quelque chose qui a de la valeur, qui produit des revenus ou qui s'apprécie, et qui a un marché où l'actif peut être facilement acheté et vendu. Les actifs produisent des revenus. Les actifs s'apprécient. Les actifs font les deux. À l'inverse, le passif vous fait perdre de l'argent en raison des coûts qui y sont associés. Lorsque ce livre a été publié pour la première fois en 1997, Kiyosaki a suscité une vive controverse avec cette affirmation. En effet, par définition, une résidence personnelle n'est pas un actif, à moins qu'elle ne s'apprécie suffisamment pour compenser les coûts de propriété. En revanche, un bien locatif est un actif parce qu'il peut générer des revenus passifs suffisants pour dépasser les frais d'exploitation et de financement du bien immobilier. Comme l'écrit Kiyosaki, vous voulez vous enrichir ? Concentrez vos efforts sur l'achat d'actifs productifs de revenus lorsque vous comprenez vraiment ce qu'est un actif. Maintenez vos dettes et vos dépenses à un niveau bas. Vous enrichirez votre colonne d'actifs. Chapitre 3 porte le titre « Occupez-vous de vos affaires ». Ce chapitre contient 2 messages clés. Tout d'abord, remboursez vos dettes et commencez à investir dans des actifs productifs de revenus dès que possible. Ensuite, restez en bonne santé financière en consacrant votre temps au lieu de votre salaire et en investissant autant que possible votre argent dans des actifs. Dans ce chapitre, Kiyosaki note que la plupart des gens confondent leur profession avec leur entreprise. En d'autres termes, ils passent leur vie à travailler dans une entreprise de quelqu'un d'autre et à enrichir d'autres personnes. L'une de mes citations préférées de ce chapitre est la suivante. La principale raison pour laquelle la majorité des pauvres et de la classe moyenne sont fiscalement conservateurs est qu'ils n'ont aucune base financière. Ils doivent s'accrocher à leur emploi et jouer la carte de la sécurité. Ils ne peuvent pas se permettre de prendre des risques. En lisant chapitre 4, l'histoire des impôts et le pouvoir des entreprises, il est important de garder à l'esprit que Kiyosaki a écrit ce livre comme un livre de motivation et non comme un livre de conseils financiers ou fiscaux. Par exemple, Kiyosaki parle de la fois où il a acheté une Porsche et l'a traitée comme une dépense professionnelle en utilisant des dollars avant impôts. L'achat d'une voiture de luxe haut de gamme, alors qu'une marque et un modèle beaucoup moins cher feraient l'affaire, pourrait mettre l'investisseur sur la voie rapide d'un contrôle du fisc. Mais si l'on met de côté la Porsche, les points abordés dans ce chapitre traitent de la manière de jouer intelligemment le jeu de l'investissement. Les riches comprennent le pouvoir des structures d'entreprise et du code des impôts et utilisent tous les moyens légaux possibles pour minimiser leurs charges fiscales. Comparer la façon dont les propriétaires d'entreprises et les investisseurs qui possèdent des sociétés paient des impôts à la façon dont la plupart des gens paient des impôts. Les propriétaires d'entreprises ayant une structure de société gagnent de l'argent, puis dépensent cet argent et paient des impôts après. Les employés qui travaillent pour des sociétés gagnent de l'argent, paient leurs impôts et dépensent leur argent qu'après. Notez que les employés qui travaillent pour quelqu'un d'autre dépensent leur argent après impôts, alors que les propriétaires d'entreprises gagnent et dépensent avant de payer des impôts. Ce chapitre couvre également les quatre principaux éléments de ce que Kiyosaki appelle le QI financier. La comptabilité, la stratégie d'investissement, la loi du marché et la loi. Comme le rappelle ce livre, la compréhension des avantages juridiques et fiscaux contribue de manière significative à la constitution d'un patrimoine à long terme. Par exemple, une société peut payer ses dépenses avant de payer ses impôts, alors que les employés sont d'abord imposés et doivent essayer de payer ses dépenses avec ce qui reste. Les sociétés offrent également une protection juridique contre les poursuites judiciaires. Lorsque quelqu'un poursuit un individu fortuné, il se heurte souvent à des couches de protection juridique et découvre souvent que l'individu fortuné ne possède en fait rien en son nom propre. Il contrôle tout, mais il ne possède rien personnellement. Place au chapitre 5, les riches inventent l'argent. Inventer de l'argent signifie trouver des opportunités ou des affaires pour lesquelles d'autres personnes n'ont pas les compétences, les connaissances, les ressources ou les contacts nécessaires. Chapitre 5 vous explique qu'il existe deux types d'investisseurs. Les packages d'investissement sont achetés par des personnes qui confient leur argent à un promoteur ou à un gestionnaire de fonds. C'est la façon dont la plupart des gens investissent, par exemple en achetant des actions d'un ETF, ou en plaçant de l'argent dans une entreprise de crowdfunding immobilier. Les investisseurs professionnels s'occupent de leurs propres investissements, étudient le marché pour trouver des opérations intéressantes, puis font appel à des professionnels pour gérer la surveillance quotidienne. Les investisseurs professionnels ont trois choses en commun. Ils identifient des opportunités que d'autres n'ont pas trouvées. Ils collectent des fonds pour l'investissement. Et ils travaillent avec d'autres personnes intelligentes. Voici l'une de mes conclusions préférées de ce chapitre. Certains prétendent qu'il n'y a pas de bonnes affaires immobilières là où elles se trouvent, mais il y a partout des opportunités de premier ordre qui sont négligées. La plupart des gens ne sont pas formés financièrement pour reconnaître les opportunités qui se présentent à eux. Chapitre 6. Travaillez pour apprendre, ne travaillez pas pour l'argent. Père pauvre était intelligent et bien éduqué, et travaillait pour l'argent parce que la sécurité de l'emploi comptait beaucoup pour lui. Père riche est devenu millionnaire en travaillant pour apprendre. Comme l'écrit Kiyosaki, je recommande aux jeunes de chercher du travail pour ce qu'ils vont apprendre, plus que pour ce qu'ils vont gagner. Ils doivent réfléchir aux compétences qu'ils souhaitent acquérir avant de choisir une profession spécifique et de se laisser piéger dans la rat race. En fait, c'est exactement ce que Kiyosaki a fait. Après avoir obtenu son diplôme universitaire, il s'est engagé dans la marine et a appris les compétences commerciales essentielles en matière de direction et de gestion des personnes. Après avoir servi son pays, Kiyosaki est entré chez Xerox, a surmonté sa peur du rejet pour devenir l'un des 5 meilleurs vendeurs de l'entreprise, puis a quitté le monde du salariat pour créer son propre business. Chapitre 6 traite ensuite la synergie des compétences de gestion nécessaires pour réussir dans les affaires. La gestion des flux de trésorerie, la gestion des systèmes et la gestion du personnel. Chapitre 7, surmonter les obstacles, commence par noter que la principale différence entre un riche et un pauvre est la façon dont ils gèrent la peur. Robert Kiyosaki ne parle pas de la peur que certaines personnes éprouvent en allant chez le dentiste ou en regardant le film L'Exorciste. Le terme « peur » désigne la peur de perdre de l'argent et la manière de gérer cette peur. C'est l'un des 5 plus grands obstacles auxquels les gens sont confrontés sur le chemin de l'indépendance financière. La peur, en plus du cynisme, la paresse, les mauvaises habitudes et l'arrogance. Ces obstacles et l'incapacité à les surmonter expliquent pourquoi les personnes qui ont étudié et acquis les connaissances financières sont toujours incapables de développer des actifs qui génèrent des flux de trésorerie abondants. Laissons-nous aller plus dans les détails. Commençons avec la peur. Perdre de l'argent est une réalité de la vie d'investisseur, tout comme la peur qui l'accompagne. Kiyosaki fait remarquer qu'il n'a jamais rencontré de personne riche qui n'ait jamais perdu d'argent, mais qu'il a rencontré de nombreux pauvres qui n'ont jamais perdu un centime parce qu'ils n'ont jamais investi. Les investisseurs immobiliers qui choisissent de n'agir qu'en fonction d'une chose sûre sont paralysés par une peur déguisée. Les personnes incapables d'avoir une vision d'ensemble et de voir grand sont celles qui ne réussissent presque jamais, ni dans l'investissement, ni dans la vie. Après, le cynisme. Tout le monde a des doutes qui affectent la confiance en soi et il est facile de tomber dans le piège du « et si », surtout lorsque les amis et la famille vous rappellent constamment vos lacunes potentielles. L'effondrement de l'économie, la hausse des taux d'intérêt et le fait que les locataires ne paient pas leur loyer sont des craintes communes à tous les investisseurs immobiliers. Bien qu'il s'agisse d'éléments importants à prendre en compte, il est important de ne pas laisser le cynisme des autres prendre le dessus sur votre contrôle. Sinon, vous risquez de rester immobilisé et de laisser passer les occasions qui se présentent à vous. Après, la paresse. Dans le monde interconnecté d'aujourd'hui, il est facile de confondre le fait d'être occupé avec celui d'accomplir des choses importantes. En fait, les personnes occupées sont souvent les plus paresseuses. Les personnes occupées arrivent au bureau tôt et partent tard. Ils ramènent leur travail à la maison pour le terminer le soir et le week-end. Avant même de s'en rendre compte, les personnes et les choses qui comptent le plus pour eux ont disparu. Au lieu de céder à l'appel de la course au rendement et de confondre action et accomplissement, les investisseurs immobiliers qui réussissent sont proactifs et s'occupent d'abord d'eux-mêmes et de leur patrimoine. Il y a aussi les mauvaises habitudes. Les habitudes contrôlent le comportement. Par exemple, la plupart des gens paient d'abord leurs factures avant de se payer eux-mêmes. Par conséquent, il ne reste généralement que très peu d'argent à la fin du mois pour investir. Se payer en premier, même si vous n'avez pas assez d'argent pour payer d'autres personnes, vous rend plus fort financièrement, mentalement et fiscalement. Il s'agit en quelque sorte d'une forme de psychologie inversée. Lorsque vous prenez l'habitude de vous payer en premier, vous êtes motivé par la peur de ne pas pouvoir payer vos créanciers. Vous commencez alors à chercher d'autres formes de revenus, comme l'investissement immobilier ou autre. Et pour finir, il y a encore l'arrogance. Les investisseurs savent ce qui leur rapporte de l'argent. Mais c'est ce qu'ils ne savent pas, et ne savent pas encore, qui leur fait perdre de l'argent. Lorsque les gens deviennent vraiment arrogants, ils croient sincèrement que ce qu'ils ne savent pas n'a pas d'importance. Entraînez-vous à écouter ce que les autres ont à dire, surtout lorsqu'il s'agit d'argent et d'investissement. Si vous découvrez que vous êtes ignorant sur un sujet, instruisez-vous, formez-vous ou trouvez un expert dans le domaine. Pour surmonter ces 5 obstacles majeurs sur la voie de la réussite, il faut un mélange d'équilibre et de concentration. Il y a beaucoup de petits poules dans le monde d'aujourd'hui, des gens avec une mentalité de victime qui vivent leur vie dans le cynisme et le pessimisme. Père riche, père pauvre suggère d'éliminer de votre vie les personnes négatives et leurs peurs. Au lieu de cela, concentrez-vous sur la situation dans son ensemble et posez toujours la question suivante : qu'est-ce que moi j'y gagne ? Place au dernier chapitre. Chapitre 8 nous dit qu'il y a de l'or partout. Mais la plupart des gens ne sont tout simplement pas formés pour le voir. Ce manque de vision et de clarté vient en partie du monde dans lequel nous vivons. Dès notre plus jeune âge, nous sommes formés à travailler dur pour quelqu'un d'autre, à dépenser l'argent que nous gagnons, et à en emprunter davantage si nous en manquons. Malheureusement, les personnes qui choisissent de faire partie de la masse ne prennent jamais le temps de développer leur génie financier. L'investissement dans l'immobilier en est le parfait exemple. L'investisseur moyen peut passer une semaine sur le terrain et ne rien trouver, alors que l'investisseur qui s'est formé peut facilement trouver 4 ou 5 affaires intéressantes en une seule journée. dont voici les 10 états à suivre pour développer votre génie financier et découvrir l'or qui est déjà là et qui ne demande qu'à être trouvé. Ayez une raison émotionnelle profonde ou un but pour faire ce que vous faites, une combinaison de désir et de non-désir. Comprenez le pouvoir du choix et choisissez chaque jour ce que vous faites, notamment en choisissant les bonnes habitudes et en s'éduquant. Choisissez soigneusement vos amis en tirant parti du pouvoir d'association, en veillant à ne pas écouter les personnes médiocres ou effrayées. Maîtrisez le pouvoir d'apprendre rapidement et développez une formule pour gagner de l'argent. Payez-vous en premier en maîtrisant le pouvoir de l'autodiscipline pour gérer votre trésorerie, votre personnel et votre temps personnel. Sélectionnez les meilleurs éléments de votre équipe et rémunérez-les généreusement pour leurs conseils, car plus ils gagneront d'argent, plus vous en gagnerez. Posez la question « En combien de temps vais-je récupérer mon argent ?» en vous concentrant d'abord sur le rendement de l'investissement, puis sur le retour sur investissement. Utilisez l'argent généré par les actifs que vous possédez pour acheter des produits de luxe en vous concentrant sur l'autodiscipline afin d'utiliser l'argent pour en créer davantage. Ayez un modèle à suivre et exploitez le pouvoir de son génie pour le mettre à votre service. Et réalisez que si vous voulez quelque chose, vous devez d'abord donner quelque chose. Et avec ceci, nous sommes à la fin de ce résumé. J'espère que les éléments évoqués vont vous être utiles et que vous allez vérifier par vous-même comment vous pouvez implémenter ces connaissances dans votre vie personnelle et professionnelle. Bien évidemment, si ce résumé vous a plu, je vous encourage de lire le livre complet. Je vous promets que vous ne serez pas déçus de l'avoir fait. Il me reste qu'à vous encourager de continuer votre apprentissage et d'être au rendez-vous pour le prochain épisode, durant lequel nous plongeons dans un autre livre essentiel pour maximiser votre plein potentiel. Merci de votre fidélité et je vous souhaite tout le succès que vous méritez.